Merci d'écouter RFI, 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Elle vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Jour de présidentielle en Namibie, pays sur lequel règne depuis 34 ans la SWAPO. Un scrutin toujours en cours et il pourrait déboucher sur l'alternance. La jeunesse minée par le chômage rejette le bilan du parti au pouvoir. Des Soudanaises dans des camps de réfugiés au Tchad, dont celui d'Adré, accusent des humanitaires de l'ONU et des forces de sécurité tchadiennes d'avoir commis des abus sexuels. Ce sera le dossier d'Afrique Soir avec Nadia Ben Mahfoud. Nous parlerons de la découverte d'un important gisement d'or en Côte d'Ivoire de classe mondiale. Il pourrait produire jusqu'à 11 tonnes de métal précieux par an, une pépite pour l'économie ivoirienne. À suivre le football et le début aujourd'hui de la Coupe de la Confédération. Nous en parlerons avec Thomas de Saint-Léger. Enfin, musique et la sortie du 6e album de Wizkid, le poids lourd de la scène nigériane. Wizkid qui compte, nous dira Pierre Vallée, 19 millions d'abonnés sur Instagram. D'abord la République démocratique du Congo, où le président se trouve dans la province du Tanganyika. Il doit assister à la conférence annuelle des gouverneurs à Kalemie. À peine descendu de l'avion, Félix Tshisekedi a tenu un discours devant la population dans lequel il a une nouvelle fois évoqué une réforme de la Constitution avec à la clé un référendum à Kinshasa, Pauline Azidi.
C'est au peuple lui-même de s'exprimer, a déclaré en Lingala Félix Tshisekedi concernant l'avenir de la Constitution. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais laisser le libre débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le dernier mot reviendra au peuple, a conclu le président, qui met donc sur la table un possible référendum. C'est la troisième fois en un peu plus d'un mois que le président aborde le sujet dans un discours, à chaque fois lors d'un déplacement en province. Fin octobre, c'est à Kisangani dans la Tshopo qu'il avait évoqué une possible révision constitutionnelle. Mi-novembre, à Lubumbashi, dans le Katanga, il avait clarifié sa position, expliquant que la question n'était pas celle d'un troisième mandat, mais que la constitution actuelle ne protégeait pas assez le pays. Et de nouveau, il est question de la réforme à Kalemie. Et ce mercredi, le président a obtenu un soutien de poids avec celui des gouverneurs de province. Dans un mémorandum lu par Fifi Mazouka à la tête du Lualaba, le collectif des gouverneurs s'est unanimement rangé derrière la démarche du chef de l'État pour réviser une constitution qui, je cite, « comporte de nombreuses faiblesses ». Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et toujours autour de ce débat sur une réforme de la constitution, l'opposant d'Eli Sesanga était ce matin dans les rues de Kinshasa pour protester contre un éventuel changement de texte. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 20h33 à Solitaire. Nous sommes en Namibie, où près d'un million et demi d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Le vote est toujours en cours, 15 candidats sont en lice, parmi eux deux figures de la scène politique, Netumbo Nandi Ditwa, candidate du parti au pouvoir, la SWAPO, et Panduleni Itula, son principal adversaire. Itula, ancien membre de la SWAPO, pourrait bien briser l'hégémonie de 34 ans du parti, contraignant ainsi le parti au pouvoir à un second tour. Christina Okello.
Un tournant historique se dessine en Namibie. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7h ce matin, de longues files d'attente témoignent de l'engouement des Namibiens avec une forte présence des jeunes électeurs. Frustrés par un chômage record et une pauvreté endémique, ces jeunes rejettent le bilan de la SWAPO après 34 ans de règne. Beaucoup pourraient donc se tourner vers l'opposition, notamment Panduleni Itula, leader du parti des patriotes indépendants pour le changement. Cet avocat et dentiste promet un avenir prospère pour la jeunesse et pourrait bien devenir le visage de l'alternance. Reste à savoir si Panduleni Itula parviendra à rassembler les voix des 20 partis d'opposition, car l'opposition est divisée, qui rend presque inévitable un second tour. Celui-ci pourrait opposer Netumbo Nandi Daitwa, candidate de la SWAPO et en quête d'un rôle historique en première femme présidente de la Namibie, à Panduleni Itula, leader de l'IPC. Ces élections sont aussi un test pour les anciens mouvements de libération d'Afrique australe. centrale, confrontés aux bond freeze, ces jeunes nés après l'indépendance et qui ressentent aucune loyauté envers ces partis historiques. Une tendance déjà illustrée par les récents revers politiques au Botswana et en Afrique du Sud.
Et outre la présidentielle, les Namibiens étaient également appelés à élire leurs représentants au Parlement, selon les analystes des premières tendances, devraient être connus d'ici vendredi. Autre scrutin, la Tanzanie, où ont lieu ce mercredi des élections municipales, considérées comme un test avant la prochaine présidentielle. Environ 31 millions d'électeurs étaient appelés à désigner plus de 80 000 élus des villes, villages et quartiers. Et le principal parti d'opposition, Chadema, dénonce le meurtre de 3 de ses membres ainsi que des fraudes. Le chaos et la cohue ce mercredi à Maputo, la capitale du Mozambique, lors de nouvelles manifestations de l'opposition contre la fraude électorale. Les manifestants étaient appelés à bloquer la circulation routière aux heures de pointe. Mais ce matin, un véhicule blindé des forces de sécurité a renversé une manifestante, ce qui a provoqué un véritable embrasement. Gaëlle Alex.
La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un véhicule blindé de l'armée mozambicaine rouler à toute allure sur l'avenue Eduardo Mondlane. Dans une véritable cohue, la foule s'écarte pour l'éviter, mais une jeune femme placée derrière une barricade n'a pas le temps de s'enfuir. Elle est percutée de plein fouet par le blindé qui poursuit sa route. Ces faits ont été confirmés par les journalistes de l'agence Lusa présents sur place. S'ensuit alors un véritable chaos. La foule en colère s'en prend à la police. Au jet de pierre, les forces de l'ordre répondent par des gaz lacrymogènes. Vers 11h, des tirs à balles réelles sont entendus dans les rues de la capitale. La tension culmine en fin de matinée quand des manifestants tentent d'incendier un blindé de l'unité d'intervention rapide avec des agents à l'intérieur. Pour l'heure, aucun bilan n'a été rendu public pour cette nouvelle journée de manifestation. Une source à l'hôpital central de Maputo affirme que la jeune femme renversée est désormais hors de danger. Hier, la Commission européenne avait appelé à la retenue, déplorant que la brutalité de la répression ait exacerbé la situation au Mozambique. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
En bref, c'est un nouveau signe de réchauffement entre Niamey et Porto Novo. Le chef du régime militaire du Niger a nommé un nouvel ambassadeur au Bénin. Les relations entre les deux pays s'étaient tendues après le coup d'état militaire qui avait renversé en juillet 2023 le président nigérien élu Mohamed Bazoum.
Abidjan 97.6 FM.
La Côte d'Ivoire va-t-elle rouler sur l'or? Un important gisement a été découvert à Tandas et dans l'est du pays. Le PDG de l'entreprise Endeavour Mining annonce attendre une production annuelle de 11 tonnes pour commencer. Et la découverte de ce gisement aurifère, déjà considéré de classe mondiale, pourrait booster l'activité minière autour du précieux métal en Côte d'Ivoire. C'est l'avis de Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière, énergie et mines. Il était l'invité d'Afrique Midi.
La Côte d'Ivoire attend beaucoup de retombées positives. La première retombée, évidemment, c'est la visibilité de son activité minière aurifère. Et en deuxième lieu, son attractivité aurifère, parce que plus on découvre des filons d'or, pas des traces d'or comme ailleurs, mais des filons d'or, ça devient comme un produit d'appel qui fait venir d'autres investisseurs. Et en troisième et dernier lieu, ce sont des retombées économiques évidentes pour l'État de Côte d'Ivoire qui va se traduire en développement socio-économique et humain pour les populations et en termes d'employabilité également.
Serge Parfait-Dioman avec Nicolas Sûr. Indignation en France après la détention en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Une détention sans fondement, tout simplement inacceptable pour le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Des comités de soutien se multiplient pour exiger la libération de l'écrivain. Écoutons son ami Jacques Ferrandez, auteur et illustrateur qui a beaucoup travaillé sur les relations France-Algérie.
Boualem, c'est un homme de paix. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je ne connais pas quelqu'un de plus doux que lui. C'est quelqu'un extrêmement mesuré, extrêmement pacifique. Enfin, vous voyez, ça fait 15 ans qu'il me disait « mais il faut que je quitte l'Algérie, mais je ne peux pas m'y résoudre parce que j'ai une légitimité en tant qu'écrivain pour résister à ce qui se passe en Algérie de l'intérieur. » Il disait d'ailleurs « c'est pas à moi de partir, c'est eux qui doivent partir, oui, en parlant des dirigeants. » Il y a une épée de Damoclès permanente sur les intellectuels, sur ceux qui prennent la parole. Ils peuvent être arrêtés, relâchés dans la journée, ou ils peuvent être arrêtés, jugés, condamnés, certains à des peines de prison. Ils critiquaient l'islamisme en général, alors en Algérie en particulier, mais aussi en France. Ils déploraient la manière dont, à travers les frères musulmans, à travers des mouvements, tout ça est en train de s'installer en France. Lui, enfin, je veux dire, il a payé pour le savoir aussi. En Algérie, il y a eu quand même, on dit, 200 000 morts pendant cette guerre civile.
Les années 90, la décennie noire.
La décennie noire. Alors, ce qui est aujourd'hui en Algérie est quasiment tabou. Enfin, aujourd'hui, on parle d'islamophobie, etc. Vous voyez, mais Boualem, il sait très bien de quoi il parle, en l'occurrence, quoi.
Des propos recueillis par Isabelle Chenu. Boualem Sansal a été arrêté à son arrivée en Algérie. C'était le 16 novembre, alors qu'il se rendait chez lui à Boumerdès. Il a finalement été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger et placé sous mandat de dépôt. En Somalie, un tribunal de Mogadiscio a délivré ce mercredi un mandat d'arrêt contre Ahmed Madobe, accusé d'atteinte à l'unité nationale. Cet homme vient d'être réélu président de l'État du Joubaland dans le sud du pays lors d'un scrutin non reconnu par le gouvernement fédéral de Somalie. Direction le Tchad pour le dossier d'Afrique Soir et en particulier l'Est du pays. C'est là que se concentrent les camps de réfugiés soudanais. En 19 mois, la guerre au Soudan a déplacé plus de 11 millions de personnes et plus de 3 millions d'entre elles ont trouvé refuge dans les pays voisins, la majorité au Tchad. Et dans ces camps, des réfugiés soudanaises accusent des équipes humanitaires des Nations Unies ainsi que des forces de sécurité locales d'abus sexuels. Les révélations de l'agence de presse américaine AP font état, entre autres, de rapports sexuels non consentis en échange de soins ou encore de certains accès. Nadia Ben Mahfoud.
Des relations sexuelles pour survivre, des exploitations sexuelles en échange d'argent et d'accès à l'assistance au sein même des camps ou encore des enfants issus de ces rapports sexuels non consentis. Ce sont les allégations qui pèsent aussi bien sur des humanitaires des Nations Unies que des forces de sécurité tchadiennes. 90% des réfugiés présents dans les camps de l'Est du Tchad sont des enfants et des femmes et plus de la moitié d'entre elles sont arrivées seules. Epiphanie Dioran, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, explique que la plupart d'entre elles ont déjà subi des violences, y compris des viols. Son association lance un programme de 6 mois à Adré pour accompagner ces réfugiés. Une clinique juridique, psychologique et médicale doit être mise en place dans les prochaines semaines. Agressions sexuelles, famine, manque d'infrastructures et de services adaptés, le gouvernement tchadien et les organismes présents dans les camps tirent la sonnette d'alarme. Le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a reçu que 11% des 214 millions de dollars nécessaires en 2024 pour faire face à la crise. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et contacter les autorités tchadiennes n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les Nations Unies au Tchad se disent attristées de ces accusations. Elles prônent une politique de zéro tolérance, disent-elles, face à toute exploitation sexuelle et abus. Alors quels sont les mécanismes mis en place pour prendre en charge les potentielles victimes? Qu'adviendra-t-il des humanitaires qui seraient à l'origine de ces agressions? Écoutons Yewande Osarien Odia. Elle préside l'agence de l'ONU en charge des questions de santé sexuelle et elle répond à Nadia Ben Mahfoud.
We have a robust prevention mechanism.
Nous disposons d'un mécanisme de prévention solide. Nous essayons de nous assurer que les bonnes informations sont diffusées dans nos différents camps. Mais nous disposons également de centres intégrés où nous recevrons les femmes victimes de violences et où nous les assistons. Nous apportons même un soutien judiciaire afin qu'elles puissent intenter une action en justice contre l'agresseur. Mais à l'heure actuelle, avec les allégations dont nous disposons, nous lançons bien sûr un processus d'enquête. Starting
an investigation process. Donc c'est bien vous qui mettez en place une enquête et une équipe dédiée sur place?
Il s'agit bien sûr des Nations Unies, mais bien sûr cela dépend de l'acteur concerné. Chaque agence a ses enquêteurs.
Et vous avez identifié les agences en question, les différentes ONG qui sont impliquées ou...
Je ne répondrai pas.
Quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les humanitaires à l'origine de ces agressions?
Si l'enquête démontre qu'il y a effectivement eu exploitation et abus sexuels, les sanctions pourraient alors aller de la cessation de service à des mesures même plus graves, en fonction du pays et bien sûr de la gravité de la situation.
Donc c'est un problème qui ne concerne pas uniquement les camps de l'Est du Tchad, puisqu'on peut lire sur le site officiel des Nations Unies, dans un rapport qui date de mars 2024, que vous avez reçu à travers le monde 758 allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par votre personnel l'an dernier, ainsi que par le personnel affilié et celui de partenaire. C'est un phénomène assez généralisé finalement.
Sadly,
Malheureusement, c'est quelque chose que nous constatons partout dans le monde. Et pas seulement avec le personnel de l'ONU, c'est le cas avec d'autres acteurs humanitaires et des agents de sécurité étatiques. Nous devons travailler ensemble, mais aussi travailler avec les communautés locales, parce que ce sont des gens qui vivent dans des situations très vulnérables. Très souvent, ils n'ont pas le choix. Parfois même, ils souffrent d'une manière qui facilite cette situation, et cela ne devrait jamais être une excuse.
Comment vous recrutez vos équipes pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'abus une fois qu'ils sont sur le terrain ? Est-ce qu'il y a une manière de les recruter qui va changer peut-être pour prévenir ces problématiques ?
Nous avons un processus qui interdit aux personnes accusées d'exploitation sexuelle d'occuper un poste ailleurs.
Yomonde Ossarienne, Odia avec Nadia Benmafoud. Et puis le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, attendu à N'Djamena ce soir. C'est sa première visite en Afrique subsaharienne depuis qu'il a pris ses fonctions en septembre. Il se rendra justement dans ce camp de réfugiés d'Adré à la frontière avec le Soudan demain. Et son voyage le conduira ensuite en Éthiopie et au Sénégal. On a appris la mort du Tanzanien Faustin Dugulile. Il devait prendre en février ses fonctions de directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Il est mort à l'âge de 55 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale tanzanienne. Enfin, la 12e édition du prix de la littérature arabe qui distingue un roman arabe traduit en français est décerné ce soir à la romancière tunisienne Amira Renim pour son roman Le désastre de la maison des notables, un livre édité chez Philippe Ray. Et le prix lui sera remis ce soir à Paris, à l'Institut du monde arabe, Amira Renim, qui décroche ce prix devant 8 autres finalistes. 19h46, ici à Paris, on parle de football. En Afrique, les équipes encore engagées en Ligue des Champions ont débuté la phase de groupe hier. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Sylvie.
Et autour aujourd'hui de celle concernée par la Coupe de la Confédération.
C'est ça, première journée et déjà 3 points précieux pour le Stade Malien, vainqueur des Sud-Africains de Stellenbosch. Un but en début de match, un autre dans le temps additionnel, ça fait 2-0. Merci, au revoir. L'autre match de ce groupe B opposera tout à l'heure les Marocains de Berkane aux Angolais de Lunda Soul. 2-0 aussi pour l'ASEC d'Abidjan qui remporte son duel ouest-africain face au Djaraf de Dakar. Dans cette même poule C, coup d'envoi du SM Alger au Rapa United dans un petit quart d'heure. Au même moment, le tenant du titre, le Zamalek du Caire, recevra les Black Bulls du Mozambique. Une affiche du groupe D, groupe qui a vu tout à l'heure l'autre club égyptien Al-Masri dominer Enyimba du Nigeria. 2-0 décidément, c'est le score de la soirée. Il nous reste la poule A. Et là, les deux résultats sont connus. Deux résultats identiques. 1-0 à Dar es Salaam pour Simba Sports aux dépens de Bravos des Maquis. Et pour Constantine sur le terrain du CS Sfaxien dans ce derby du Maghreb.
Ben, j'ai envie de vous dire merci. Au revoir, Thomas Saint-Léger. On va passer au handball. Coup d'envoi ce jeudi de la 26e CAN féminine à Kinshasa. L'Angola, quadruple tenant du titre et favorite naturelle à sa propre succession, a connu des débuts tranquilles en surclassant la Tunisie 36-23, tandis que les Camerounaises ont dû davantage ferrailler pour venir à bout de la Guinée 32-26, menées 15-12 à la pause. Les vice-championnes d'Afrique 2021-2022 ont dû sérieusement corriger le tir à leur retour des vestiaires pour ne pas rater leur entrée. C'est ce que reconnaît l'arrière Paola Ebanga.
Le coach nous a donné un discours très motivateur. Il nous a demandé de jouer simple et de jouer efficace par rapport aux différentes qualités de jeu qu'on a. Et aussi, il nous a demandé de mieux gérer notre défense parce qu'au début, on était assez haute. C'était pas nécessaire de monter assez haut. Du coup, on a rabattu la défense et on a résolu les problèmes en défense. En attaque, on a été un peu plus efficace dans les tirs. On a mis un peu plus de buts, du coup, ça nous a beaucoup aidé. On vient avec 3 objectifs. Le premier, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Le second, c'est de faire minimum deuxième, comme au Sénégal, comme les deux derniers CAN. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est de remporter la CAN.
Paola Ebanga, au micro d'Olga Massangou. Les autres résultats, le Sénégal a écrasé le Kenya 39-9, l'Algérie bat le Cap-Vert 20-16 et le Congo-Brazzaville a été surpris par l'Égypte 27-23. En ce moment, le pays hôte, la RDC, affronte l'Ouganda. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h48 en temps universel. La suite de notre série de reportages consacrée au Soudan, un pays ravagé par une guerre fratricide depuis avril 2023. Le conflit entre les forces armées soudanaises du général Bourane et les paramilitaires des FSR a provoqué le plus important déplacement de population au monde. Ainsi, la ville de Port-Soudan, sur les bords de la mer Rouge, est devenue de facto la capitale du pays. Sa population a doublé depuis la guerre et plus de 250 000 personnes s'entassent dans une centaine de bâtiments public. Notre envoyé spécial, Elliot Brachet, s'est rendu dans une école qui abrite des artistes déracinés par les combats. Et voici son reportage.
Dans la cour de l'école, Amin Akram improvise une leçon d'anglais. Il y a une semaine, ce professeur de musique a fui Khartoum, laissant derrière lui ses instruments. Il habitait dans le quartier de Chambat, contrôlé par les paramilitaires, aujourd'hui pilonné par l'armée régulière.
Les maladies se propageaient. La malaria, le typhus, la dengue. Tout cela à cause du manque de nourriture. En plus des combats, c'était invivable. J'habitais à côté du cimetière. Ils enterraient 3 cadavres par jour. Nous étions à bout de force. Après un an et demi d'enfer, je voulais revoir la vie.
Dans des salles de classe reconverties en dortoirs, une soixantaine d'artistes exilés partagent des lits superposés. Ils sont comédiens, cinéastes, danseurs. Comme Muhaira Fathi, une décoratrice de 27 ans, beaucoup ont été déplacés plusieurs fois par les combats.
Mon quartier à Khartoum a été rasé par les bombardements aériens. Alors je suis allée me réfugier dans la Guézira. J'y suis restée 2 mois, puis les forces de soutien rapide ont attaqué. Là, c'était encore pire. Des cas de viol et de violence contre les femmes. Au final, c'est une guerre contre les civils. Que ce soit par les avions de l'armée, les obus ou les pillages des paramilitaires, c'est le citoyen qui perd tout. Cette guerre est absurde. Elle doit s'arrêter.
Chaque semaine, entre 2 coupures d'électricité, ces artistes organisent des projections de cinéma, des concerts et jouent du théâtre dans les camps de déplacés. Pour le metteur en scène, Rabia Youssef, l'art est la seule arme qu'il leur reste.
Cette guerre a des racines historiques, politiques, économiques. Mais la cause grave et la plus négligée, c'est le manque de culture. Nous avons beaucoup de tribus et de langues différentes. Mais les Soudanais ne se connaissent pas entre eux. Et la guerre amène toujours avec elle des discours de haine. Alors, nous les artistes, devons jouer notre rôle. Notre art est une arme qui combat la propagande, les mensonges, une arme qui agit sur les consciences. C'est une forme de résistance. Objectivement, il est possible d'arrêter cette guerre. La seule solution, c'est la négociation. Au Soudan, nous avons connu de nombreuses guerres. Aucune ne s'est terminée par la voie des armes.
Ces messages de paix restent largement inaudibles dans le vacarme de la guerre. Pour le moment, les 2 généraux refusent toute négociation, préférant la guerre totale. Eliot Brachet, de retour de Port-Soudan, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr sur notre site internet www.rfi.fr. Qu'écoutez ce soir sur votre radio ? Accent d'Europe, c'est dans quelques instants. La Turquie a modifié ses programmes scolaires avec de vrais choix nationalistes, comme en témoigne ce changement dans les livres d'histoire où le terme d'Asie centrale a disparu. Il est remplacé par Turkistan, littéralement le pays des Turcs. Une modification qui montre la rivalité avec la Russie, mais aussi le poids croissant de l'extrême droite dans les choix politiques. Écoutez ce qu'en dit un syndicaliste enseignant.
Le gouvernement porte une conception uniformisante qui rejette complètement les différences. Il existe de nombreuses nations, de nombreuses langues et de nombreuses religions en Asie centrale. Mais le pouvoir actuel prône une vision qui efface tout cela derrière le seul étendard du nationalisme turc.
Reportage à retrouver dans Accent d'Europe tout à l'heure à 20h10, heure de Paris, ou en podcast sur le site de RFI. À suivre également, bien sûr, Couleur Tropicale avec une émission spéciale ce soir à l'occasion des 25 ans de KLR, le premier album du Saiyan Super Crew. Le groupe est en tournée en France et on écoute un extrait d'Angela.
Il est quoi
musique encore sur RFI pour notre rendez-vous culture et c'est avec vous Pierre Vallée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous allez nous parler ce soir d'un poids lourd de la musique africaine.
Oui, l'incontournable Wizkid qui vient de sortir son 6e album Morayo, un album très attendu dont la sortie a été annoncée, puis reportée, puis annoncée, puis reportée plusieurs fois comme ça. Et très attendu aussi parce que Wizkid c'est 6 700 millions de clics sur Spotify et 19 millions d'abonnés sur Instagram. Et le problème quand on a autant de personnes qui vous suivent sur le réseau, c'est qu'ils s'expriment et ce sont les fans de Wizkid eux-mêmes qui lui ont réclamé un nouvel album.
Et donc il a répondu à ses fans en sortant ce disque.
Oui, mais il a répondu en postant une vidéo sur laquelle il semble se moquer de Davido, un autre des poids lourds de la musique nigériane. Et c'est ainsi qu'a démarré une guéguerre sur les réseaux à base de vannes et autres punchlines, un peu à l'image des rappeurs américains Drake et Kendrick Lamar, dont la joute verbale a beaucoup fait parler cet été. Côté nigérian, on ne sait toujours pas lequel de Wizkid ou Davido a été désigné comme le numéro 1, mais entre-temps, le disque de Wizkid est sorti.
Alors la question c'est, est-ce qu'il est réussi ce disque ?
Eh bien oui, il est réussi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il reprend la formule qui a fait son succès, avec des rythmes accrocheurs et des mélodies afro-pop qui touchent un large public. Ensuite, parce qu'il y a mis beaucoup de sa personne, il se dévoile plus que d'habitude, et d'ailleurs l'album est un hommage à sa défunte mère. Et à noter aussi qu'il a invité plusieurs artistes sur ce disque, comme les chanteurs américains Bren Fayaz et Jasmine Sullivan, la gabonaise Anaïs Cardo ou le rappeur français Tia Cola, sur le titre « Après minuit » en français dans le texte, qu'on écoute tout de suite.
They do me nice, I know, yeah. Say I be calling, I'm calling, cause I know, say your love not gon' find. Many, many girls did my life, but now you with did my side, yeah. Say make you want me, say you know, say nothing loving, say not surely.
Je peux pas me prononcer, ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme Rosé. Je peux pas résister quand tu remplis le rosé. À la quitte la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer. Allons au bout de nos pensées. À la quitte j'ai dans la tête une mélodie qui dit interdit. Après minuit, sans te mentir, je veux m'évader. Mais tu m'as choisi, même dans le pire. Dans la tête, une mélodie qui dit interdit. Après minuit, t'es laissé sans tes habits. C'est moi que t'as choisi, tu l'as pas pire.
Whenever you close to me, you dey give me balance, girl. My baby, hold it down for me. So many other little things you do, where they bring me to you. It's more than anything anyone can do. You know me much better than the people do. Anything we do gonna make the news. Your body the truth.
I need a type of vibe that can go for miles. Come make we stay this way for the whole ride.
Après minuit, merci à vous Pierre Vallée pour cette belle découverte. Merci également à vous de nous avoir suivis pour cette première édition d'Afrique Soir. À la réalisation ce soir, Quentin Moulin. Reste à l'écoute de la radio du monde et bonne soirée.
Comme rosé, je peux pas résister quand tu remplis le rosé. À la quitte la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer. Allons au bout de nos pensées. À la quitte j'ai dans la tête une mélodie qui dit interdit. Après minuit, sans te mentir, je vais m'évader.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
les sages-femmes, savoir et compétences au service de la santé des femmes.
Vendredi,
les premiers jours de bébé dans notre émission Questions de femmes.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Maman. Le prix RFI Talent du Rire fête ses 10 ans. 10 ans que nous récompensons chaque année le meilleur humoriste d'Afrique. Mon ami, tu veux être le numéro 10 de notre équipe continentale du Rire? Tu veux recevoir ton prix le 23 février 2025 sur la prestigieuse scène du Festival Abidjan Capitale du Rire qui lui aussi fête ses 10 ans? Inscris-toi et envoie tes meilleurs textes et vidéos sur le site abidjancapitaleduRire.com. Hey, bonne chance, hein!
Jusqu'au 7 décembre, le Sénégal accueille la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain sur le thème « L'éveil, le sillage, Rahaloui », des arts de l'illustration à la réalité virtuelle, en passant par les arts sonores, la sculpture ou la photographie. La Biennale présente une exposition internationale en parcours immersif avec 58 artistes d'Afrique et issus de la diaspora. La Biennale de l'art africain contemporain de Dakar jusqu'au 7 décembre. Plus d'informations sur biennaledakar.org.
En partenariat avec RFI, diffusé sur 92 FM à Dakar.